l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Jean-Marie Kuttner, auteur du livre Myriam pour toujours, un roman historique qui raconte l'histoire de Myriam et de son petit amoureux de l'époque. Ils avaient 11 ans, l'histoire commence en 1942 à Paris, quelques jours avant la rafle du Veldiv. Jean-Marie Kuttner, bonjour.
Bonjour.
On vous a quitté maire de Schiltigheim, on vous retrouve auteur, vous partez à la rencontre du passé de votre père et menez une quête initiatique à travers les affres de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a motivé cette quête? Qu'est-ce qui a été le déclic au départ de cette quête initiatique?
Écoutez, c'est quelque chose que je portais en moi depuis longtemps, depuis 2011 très exactement, puisqu'en 2011, les habitants de la ville de Göppingen, où est né mon père et d'où ma grand-mère a été déportée, m'ont contacté dans le cadre de la pose d'une Stolpenstein, donc d'un pavé mémoriel à la mémoire donc de ma grand-mère. Il faut savoir que mon père ne nous en a jamais parlé. Il est mort en l'an 2000, on ne lui a jamais posé de questions par décence, et on ressentait ce vide. Et donc, grâce aux habitants de Göppingen, j'ai énormément appris qui était ma grand-mère, quel était son destin. J'ai recherché après.
Esther Kuttner.
Esther Kuttner, tout à fait. Et je pense que je devais cela à mes sœurs, qui n'étaient pas au courant. Je le devais à mes enfants, qui n'en savaient rien non plus. Et je le devais également à mon petit-fils, qui a 3 ans et demi, pour qui demain, son arrière-arrière-grand-mère ne représentera plus rien.
Donc Esther Kuttner est morte en déportation.
Tout à fait.
Et vous avez découvert cette histoire, c'est pour ce Stolperstein.
Voilà, c'est là que j'ai compris, que j'ai appris et que j'estimais qu'il fallait en parler. Doublement, d'abord, comme je disais, pour mes sœurs, pour mes enfants, mon petit-enfant, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est de savoir qu'une personne n'est vraiment morte que lorsque plus personne n'en parle, lorsque plus personne n'y pense. Et je souhaitais, à travers ces quelques pages que je lui consacre dans le livre, faire en sorte qu'après la balle qu'il a assassinée, elle puisse encore rester un petit peu dans la mémoire des vivants.
Vous avez découvert vos origines juives à ce moment-là?
Non, je savais que j'étais...
Vous saviez?
Non, tout à fait. Pas spécialement pratiquant. Hein, mes parents n'étaient pas... Mon père, après tout ce qu'il avait vécu, avait pris des distances par rapport à la religion, sauf, bien sûr, au moment de sa mort, assez proche, je l'ai accompagné et c'était important qu'il soit enterré religieusement et que tout soit fait proprement.
Alors vous êtes parti également sur les traces d'Anne Frank,
oui.
Amsterdam. C'est quelque chose également qui vous a bouleversé, qui a fait lien entre l'histoire de votre grand-mère et ce roman Myriam pour toujours.
Oui, absolument. En 2006, à l'époque j'étais adjoint au maire en charge de l'enfance et de la jeunesse à Schiltigheim, j'ai eu l'occasion de travailler avec la Fondation Anne Frank. J'ai été invité à Amsterdam. On a pu visiter la maison différemment. Et j'en suis revenu bouleversé. Et j'avais écrit à l'époque... comme je le fais chaque fois quand il y a quelque chose qui me touche, quelques pages dans mon ordinateur. Et à l'occasion du confinement, j'ai rouvert ces fichiers, j'ai relu ça, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et un lien naturellement s'est fait entre Anne Frank, entre ma grand-mère. Et ce lien, c'est bien sûr le début de la politique d'extermination, parce que tout a découlé de là.
Alors Myriam, 11 ans, et je le disais en introduction, est raflée au vélodrome d'hiver, comme des milliers de juifs à cette époque-là, qui ont été arrêtés par la police française. Pour vous, c'était important, au nom de l'humanité, de dire « Myriam, on ne t'oublie pas, on continue à honorer ta mémoire encore aujourd'hui ».
Oui, à mon avis, c'est essentiel, et c'est le deuxième but d'ailleurs de ce livre, et c'est pour ça que j'ai souhaité en faire un roman plutôt qu'un document historique, parce que je me suis rendu compte que parmi mes amis, dans mes proches, beaucoup de gens me disaient « mais pourquoi tu lis ça? C'est du passé, tu n'en feras pas revivre, c'est pas la peine ». Et je crois que non, justement, quand quelque chose d'inimaginable, d'impossible se produit, c'est qu'il est possible, et que ce qui s'est produit peut encore se produire. Donc il n'y a que la compréhension des faits, il n'y a que la mémoire qui va nous permettre de nous en préserver dans l'avenir. Et à cette époque, aujourd'hui, c'est doublement important. D'abord parce que des témoins, il n'y en a plus, pratiquement tout le monde est mort. Les témoins de témoins sont maintenant âgés, Et demain, les témoins de témoins de témoins seront encore un peu moins crédibles à une époque où, à travers les réseaux sociaux, entre autres, hein, se développe le négationnisme, se développe le complotisme. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire attention. C'est pas fini, attention, tout peut se reproduire, et on le sent nettement à travers ce qui se passe, à travers l'actualité. Et je m'en suis rendu compte en faisant lire ce livre à des gens que je connaissais, qui normalement n'auraient jamais lu un livre sur la Shoah, qui m'ont dit, écoute, ton livre, il est bien, il est passionnant, quand je suis dedans, j'ai envie d'aller au bout. Et quand ils sont arrivés au bout, ils me disent, écoute, j'ai appris énormément, j'ai compris. J'ai même une amie qui est de confession musulmane, m'a dit, écoute, quand j'ai compris ce qu'était la Shoah, j'ai pleuré. Voilà, si je me dis, si je suis une petite goutte d'eau dans ce transfert de la mémoire, c'est important, parce qu'avec toutes ces gouttes d'eau, on fait des océans un jour, et j'espère que cet océan existera.
C'est assez exhaustif, hein, vous passez par tous les affres de la guerre, d'Ouradour sur Glane, jusqu'au procès. On sent toutefois que vous avez du mal à mettre un mot fin à la fin de ce roman, parce que cette histoire n'est pas terminée, elle ne sera jamais terminée.
J'ai eu beaucoup de mal à l'arrêter, parce que l'écrire, pour moi, ça a été, c'est la première fois que j'écrivais un roman, chaque personnage était devenu quelqu'un d'important dans ma vie, et je ne sais pas si c'est moi qui leur donnais vie ou si c'est eux qui m'inspiraient et qui me donnaient cette vie-là, mais en tout cas, j'étais très proche et j'avais tous les matins rendez-vous avec eux pour continuer l'histoire. Et ça a été dur d'écrire fin, ça a été dur à un moment donné de dire qu'un tel est mort, qu'un tel a disparu. Que... Oui, c'était très dur et j'y suis encore aujourd'hui très attaché.
Vous vous imaginez écrire, pas une suite forcément, mais sur ce sujet-là, vous avez des idées d'écriture de roman?
Oui, je me suis rendu compte qu'en voulant faire un roman historique, c'est-à-dire des événements véritablement à m'inscrire dans l'histoire, mais également romancé pour le rendre abordable pour chacun, j'avais éludé certaines personnes, certains faits importants, et je crois qu'il faudra un jour que je revienne là-dessus. Je cite des gens, je cite des choses, par exemple, comprendre ce qu'a été la Shoah, comment elle s'est faite. Il y a eu trois temps, il y a eu la phase discrimination, il y a eu la phase persécution et la phase extermination. Et ça, je ne l'ai pas expliqué parce que ça m'éloignait trop de l'histoire que je voulais raconter.
Ça, ce sont des mécanismes qui sont toujours en place. Oui. Et on va dire cette ségrégation, ce populisme qu'on pourrait voir encore aujourd'hui dans la politique de certaines personnes à quelques semaines des présidentielles, il y a quelque chose qui fait écho aussi aujourd'hui.
Bien sûr, il y a plusieurs choses font écho. D'abord cette discrimination, cet antisémitisme qui est toujours latent, hein, qui a malheureusement toujours existé et qui est latent. On peut également parler, par exemple, et ça je n'en ai pas parlé non plus, de la notion d'immigration, parce que beaucoup de Juifs ont quitté l'Allemagne, d'accord ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a vu au niveau de ce qu'on appelait la conférence d'Évian, où les pays se sont réunis et ont tous fermé les frontières, parce qu'on ne voulait plus accueillir. Aujourd'hui, on a la même chose. Et la conférence de Wannsee, la volonté d'exterminer, relève directement d'un moment donné d'un pays comme l'Allemagne qui voulait se débarrasser de sa population juive, les pays d'à côté qui n'en voulaient plus, ils ont compris que la seule chose à faire était d'exterminer.
Et on le dit bien dans la petite Myriam le dit bien au début de ce roman, c'est une juive apatride. Oui. Donc quand elle est raflée, son jeune compagnon, son jeune camarade, Simon, ne comprend pas. Apatride, on peut la renvoyer où? Et en fait, c'était le mystère. Exactement. C'est le début de cette histoire.
Hein. Exactement.
Jean-Marie Kuttner. Moi, j'ai lu ce livre, je l'ai lu quasiment d'une traite. Alors, il est passionnant parce qu'il est romancé, mais il est historiquement très bien renseigné. C'est quelque chose qui vous a toujours, on va dire, intéressé, les faits de l'histoire. Au-delà de la Shoah, on sent bien qu'il y a quelque chose dans l'histoire de la France et de l'Europe aussi. C'est important de replacer la France dans l'Europe. C'est quelque chose qui vous a toujours intéressé.
Bien sûr, la construction européenne qui est née dans la Shoah, m'importe, bien sûr, parce que celle qu'on va transmettre à nos enfants, et je le dis, il est important aujourd'hui, à travers ce qui est né après la guerre, de se dire que nos enfants vont pouvoir aller dans des écoles plutôt que dans des casernes. C'est important. Si vous voyez, dans l'histoire de l'Alsace, en remontant à l'histoire de l'Alsace, je me suis rendu compte que jamais auparavant, l'Alsace n'avait vécu une telle période de paix, En général, tous les 50 ans, on est traversé par une armée en campagne. C'est la première fois que ça n'arrive pas. Et cette Europe-là, elle est importante. Les liens qui se font sont importants, bien sûr. Oui, ça me tient à cœur.
Alors, ce livre, Myriam, pour toujours, vous avez envie de le faire vivre? Vous allez aller à la rencontre des lecteurs? C'est prévu, ça?
Oui, oui, tout à fait. J'essaie. Alors, j'ai déjà des contacts avec pas mal de librairies. En train de prendre des rendez-vous pour des salons, pour des signatures. Je crois que si je veux atteindre ce but, si je veux être cette goutte d'eau, il faut qu'on en parle. Il faut que je le fasse vivre, et puis c'est mon bébé.
Et vous êtes avide de ces échanges avec le public?
Oui, absolument, à tout moment.
Jean-Marie Kuttner, merci infiniment. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Myriam pour toujours. Alors vous mettez en titre 1942, elle venait d'un pays qui n'était pas le mien, elle était juive et je ne l'étais pas. Et c'était aux éditions Sidney Laurent. Merci à vous.
Mille merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.